Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Transistor et vous écoutez le journal radiophonique amplifié qui démarre avec un petit peu de retard dont nous nous excusons évidemment. Il est donc 20h02 et c'est parti pour une heure d'actualité mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée, chers auditeurs. Alors on commencera bien sûr avec le journal, on enchaînera avec un petit décortiquage, une revue de presse, un édito écho, nous prendrons rapidement les pieds dans le tapis avant de passer à la culture, puis aux sciences. Et un petit passage par le sport, ce coup-ci je ne t'oublie pas, ou presque, François-René. Merci. Mais donc, on rattrape tout de suite notre petit retard et on commence sans plus tarder avec l'info. Rebonsoir François-René, bonsoir Maë.
Bonsoir Rémi.
Avec un premier sujet, Afrique du Sud, Jacob Zuma, le chef de l'État empêtré dans des scandales de corruption, a finalement cédé aux pressions de son parti, l'ANC, et quitté le pouvoir hier. Dans une première apparition télévisée, dans l'après-midi, Zuma avait d'abord manifesté son incompréhension et son refus catégorique, assorti en conclusion d'une menace, celle que son limogeage mette beaucoup de gens en colère.
Face au tollé qu'a suscité cette stratégie d'intimidation, le désormais ex-président réapparaissait plus tard dans la soirée, annonçant finalement sa démission.
Outre les affaires judiciaires, les changements politiques au sein du parti de l'ANC faisaient déjà vaciller le trône. Cyril Ramaphosa, qui appartient à la faction social-démocrate de l'ANC, rival de la faction plus nationaliste de Jacob Zuma, a réussi à se faire élire président du parti lors des élections du parti en décembre 2017. Ramaphosa fut notamment un personnage clé de la transition démocratique post-apartheid. C'est lui qui négocia en 1991 la sortie de prison de Nelson Mandela et il doit désormais remettre le parti en ordre de marche, mais aussi une économie en perte de vitesse. Le chômage avoisine ainsi les 28%. Pour Jacob Zuma, 75 ans, c'est sans doute le début d'une longue série de procès.
C'est britannique, philanthropique et ça fait la une tous les deux jours ces derniers temps. Oxfam, ça vous dit quelque chose ? Oxfam, c'est ce monstre de l'humanitaire, confédération d'une vingtaine d'ONG dont les tentacules s'étendent aux quatre coins du monde, agités par des salariés et des bénévoles. Ça brasse des sous, beaucoup, des financements publics, mais aussi ses propres revenus, parce qu'à cette échelle de l'humanitaire, c'est un business, ça produit, ça vend, et ça fait du bénéfice que ça reverse, ou pas, ou plus, à ceux qu'on prétendait alors aider dans un premier temps.
En effet, le directeur international d'Oxfam a été arrêté mardi dans le cadre d'une enquête pour corruption au Guatemala. Une sombre histoire de contrat d'achat de bus dont évidemment il ne pensait pas avoir à mettre en doute la légalité.
Mais ce n'est pas tout, et parce qu'Oxfam visiblement aime à ressembler à une multinationale décomplexée, ce n'est pas des petits-enfants qu'elle exploite, mais des femmes.
En effet, les collaborateurs de l'ONG sont accusés d'avoir eu recours à des prostituées, parfois mineures, à Haïti et au Tchad, alors qu'ils étaient présents sur place pour une aide humanitaire.
Et comme jamais deux scandales sans trois, Oxfam est également épinglé depuis mardi pour des cas d'agression sexuelle, tentative de viol et viol, au Soudan du Sud, mais aussi dans des magasins tenus par l'ONG au Royaume-Uni, parfois des bénévoles mineurs. Oxfam, face à cette avalanche de scandales, réagit comme elle peut, avec notamment la démission de Penny Lawrence, directrice adjointe de l'organisation. Mais c'est peut-être un peu tard pour se réveiller. En effet, certains documents ayant fuité ont révélé que les cadres de l'ONG, en ce qui concerne le scandale d'Haïti, avaient connaissance des comportements douteux, voire pédophiles, de certains de leurs employés, sans qu'ils n'aient engagé aucune mesure. Alors, surtout, n'oubliez pas de faire des dons.
États-Unis cette fois, nouvelle fusillade dans un lycée de Floride, plus précisément à Parkland, une banlieue aisée de 30 000 habitants entre Miami et Palm Beach. 17 personnes, adolescentes et adultes, sont mortes sous les balles de Nicolas Cruz, 19 ans, un ancien élève du lycée qui avait été renvoyé pour indiscipline. L'adolescent, identifié par certains de ses camarades de classe, a été arrêté après une heure de poursuite dans la localité voisine de Coral Springs. Il est sous le coup de 17 chefs d'inculpation pour homicide volontaire avec préméditation. Les deux hôpitaux voisins ont par ailleurs fait savoir qu'ils soignaient 13 survivants, notamment pour des blessures par balle, dont 5 sont considérées comme dans un état critique.
La nouvelle de la fusillade a été, comme les précédentes, accueillie avec fatalisme par l'administration Trump.
Oui, aucun enfant, professeur ou quiconque ne devrait jamais se sentir menacé dans une école américaine, a tweeté Donald. Depuis le début de cette année, c'est pourtant la 18e fusillade dans une école aux États-Unis. Et pas plus de 2 jours ne s'écoulent sans qu'il y ait une victime dans des fusillades de masse, selon le décompte de... Je crois qu'on m'entend.
Vas-y, vas-y.
C'est bon ? Pardon. Sans qu'il...
Petit souci de micro.
Oui, petit souci. Je reprends. Pas plus de 2 jours ne s'écoulent sans qu'il y ait une victime dans des fusillades de masse, selon le décompte de l'association Everytown for Gun Safety. En octobre dernier, le Congrès avait brièvement affiché la velléité d'interdire les bump stocks, un accessoire qui bloque la détente, transformant un fusil ou pistolet semi-automatique en arme de guerre automatique. Mais rien n'a été fait depuis, sauf à l'échelle de certains États réputés progressistes, comme la Californie et le Massachusetts.
Macron tient ses promesses. C'était dans toutes les bouches mardi, le président compte bel et bien rétablir un service militaire ou civique national. Il pourrait durer autour d'un trimestre, a-t-il indiqué, voire plus si on choisit un service civique. Autant vous dire que les guignols qui croient échapper au treillis purgeront une peine plus longue. Alors à quoi ressemblerait ce service national? Eh bien en premier lieu, désolé les filles, il sera universel, voilà, on rigole moins avec notre féminisme à la con. On devra attendre avril pour avoir les détails de cette grande réforme, mais on sait déjà qu'elle se composera en 3 temps.
D'abord, une semaine annuelle de la défense et de la citoyenneté organisée par les lycées.
Les plus jeunes qui ont connu les cours d'éducation civique et les débats hautement construits du secondaire peuvent déjà s'en faire une idée.
Ensuite, on parle d'un rite de passage pour se faire rencontrer les jeunesses de France.
Et là, ceux qui gardent un souvenir...
les douches de l'armée.
Et là, ceux qui gardent un souvenir traumatique de leur JAPD savent à quel point les amitiés forgées ce jour-là ont été durables et constructives pour leur vie citoyenne.
Et oui, et enfin, pour les 16 à 25 ans, attention aux personnes nées après 92, le service en lui-même.
Et là, c'est flou, c'est une mélasse de civisme, militarisme, engagement. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir, mais ça sonne bien, c'est patriotique. Ça remettra peut-être enfin cette jeunesse française mollassonne, égoïste et sans cervelle dans le droit chemin. Oui, parce que, inoccupés comme ils sont, ils ont le temps de s'intéresser aux réformes de l'université après. Les jeunes étaient dans la rue aujourd'hui encore contre la réforme du bac, la sélection à l'université Parcoursup dont vous parlez il y a 2 semaines. Ça se passait à la Sorbonne ce midi et notre correspondante parisienne était sur place. Bonsoir Marie.
Bonsoir Maë, bonsoir tout le monde.
Alors tu étais à la Sorbonne ce midi, est-ce qu'il y avait du monde?
Alors au début on avait un petit peu peur quand même parce qu'on est arrivé sous la pluie battante et les gens étaient dispersés. On avait l'impression qu'on allait être à peine une centaine. On a eu un petit peu peur, mais finalement, quand le cortège s'est déployé, on a à peu près été, enfin, d'après ce qu'on a pu dire, on aurait été presque 1000. Donc voilà, c'est un peu mitigé, il y a moins de monde qu'aux deux premières, du 1er et 6 février, mais c'est moins catastrophique que ce qu'on aurait dû croire en début d'après-midi.
Ça reste raisonnable. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'était juste un rassemblement? Vous avez défilé un peu?
Oui, c'était une manifestation qui est partie donc de la place de la Sorbonne et on a marché jusqu'à Denfert-Rochereau où on a dû disperser la marche puisque le parcours ensuite n'était plus déclaré.
D'accord. Alors en plus des magnifiques sons de slogans que tu as enregistrés et qu'on a un peu entendus, tu as aussi fait une petite interview pour nous, on écoute ça tout de suite.
Il y a 2 exemples à mon avis qui vont un peu dans le sens du fait que c'est pas du tout... Comment dire ? Qu'on prêche pas dans le désert. Le premier, c'est sur les lycées de banlieue. Moi, j'ai quelques échos et ça se bouge beaucoup plus que pendant la loi travail, d'ailleurs, parce que les lycéens se sentent directement concernés, parce qu'ils savent très bien que la sélection, ça les vise socialement, et donc ça les mobilise. Et ils s'organisent avec plein de difficultés, de répression, etc., et les difficultés des mouvements lycéens, bien en général. Mais ça, c'est un premier élément un peu significatif. Le deuxième, c'est que hier il y avait eu une AG et un blocage à Paris 1 qui a eu une sacrée résonance. Il y avait beaucoup de nouveaux étudiants en AG qui ne sont pas militants, qui viennent pour s'informer et pour savoir comment s'organiser pour la suite. Donc oui, ce n'est pas des AG à 800 ou à 1000 comme ça a pu être par le passé. Par contre, c'est des noyaux qui s'organisent, des gens qui s'informent. Bon, et le problème, c'est comment est-ce qu'on peut filer à tous ces gens-là des perspectives? Comment est-ce que tous ceux qui sont à la manif, là, qui sont militants du mouvement, ils peuvent proposer des choses pour que ça s'amplifie et pour qu'on se prépare, quoi. Donc en fait, pas si démoralisant que ça l'ambiance, au contraire.
Alors est-ce que tu l'as ressenti comme ça, Marie, le fait que les jeunes se sentent directement touchés, concernés par ces prochaines lois ?
Alors, c'est un petit peu difficile à dire, donc c'est vrai que l'étudiant qu'on vient d'entendre est particulièrement, plus optimiste que d'autres, puisque, alors aujourd'hui, il n'y avait pas tant de monde que ça, je pense que c'était un peu difficile de se faire vraiment une idée, mais d'autres, on a eu d'autres avis qui divergent un peu quand même de celui qu'on vient d'entendre, par exemple, de gens qui ont pu tracter sur les campus, ils disent qu'ils voient quand même des étudiants un peu moins réceptifs que pour d'autres mesures, alors que ça les concerne quand même directement. Et certains qui sont quand même déçus de voir en AG, par exemple, à une fac comme Nanterre, on est seulement 100 ou 120 personnes pour quand même plus de 30 000 étudiants. Donc finalement, le constat, selon les avis, soit positifs, pessimistes ou positifs, tout le monde déplore en tout cas un assez manque de communication globale, d'information finalement sur ce qui se joue vraiment. Et c'est ça qui avait amené, je pense, surtout les gens aujourd'hui que j'ai pu rencontrer, c'était d'essayer de faire parler un peu plus de ce qui se passe parce qu'ils ont l'impression que personne n'est vraiment au courant.
D'accord. Voilà. Et bon, en tout cas, merci beaucoup pour ces sons et pour être avec nous ce soir en direct. Alors, comme vous le voyez, la mobilisation contre la loi Vidal, Parcoursup et les réformes du gouvernement sur l'enseignement supérieur continue. Et avant de continuer ce journal, un dernier son pour se quitter en musique. Et c'est parti pour le sujet long à présent.